au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Ben parce que le taux d'inflation vient d'augmenter. Il est à 3,2% ce matin, Mathieu.
On n'est pas à 4.
Ben, il a augmenté de 0,4 comparativement au mois précédent. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? L'essence, le prix de l'essence. Évidemment, avec la guerre au Moyen-Orient, ça fait augmenter le prix du pétrole. Ben alors voilà, bonjour, bienvenue à cette émission au quotidien. Ce lundi 22 juin, c'est l'été. On a finalement atteint le vrai de vrai été. C'est officiel depuis samedi matin. Et je vous assure que je pense que ça va parler à notre ami Louis de Bernis, parce que je pense qu'il y a de la parenté là-bas, mais c'est la canicule. Hein. Je vais en parler tout à l'heure, mais il y a une trentaine de départements en vigilance rouge canicule. On parle de 42 degrés. Ça, c'est sans l'humidex à Paris.
Oui, il a fait très, très chaud pour la fête de la musique, notamment, qui était cette fin de semaine. Oui, les gens avaient leur bouteille d'eau, elle était nécessaire. C'était un temps, une chaleur infernale.
J'ai l'intention d'en parler dans les unes, mais on va le dire tout de suite, hein, parce que la ville de Paris, en fait, en France, on demande de ne plus servir d'alcool dans les places publiques, sur les terrasses et tout ça. Surtout parce que ça déshydrate.
Absolument.
Et puis il y a déjà des problèmes de déshydratation. Alors, on dit que la France se réchauffe beaucoup depuis les derniers temps. Alors, il faut dire que les gens qui ne croient pas au changement climatique, on n'arrivera pas à les convaincre non plus, même si ils ont les dessous de bras tout mouillés. Bon, alors, puisqu'on parle, on a entendu sa voix, Louis de Bernis, qui est notre chroniqueur aujourd'hui, qui parle d'insolites.
Oui, deux sujets à vous proposer. Le premier sur le mariage et les alliances de mariage, une nouvelle tendance qui est apparue, qui se répand petit à petit. Certains remplacent les alliances par des tatouages au doigt. Je vous expliquerai un peu pourquoi et ce qu'ils ont dans la tête.
Oui, mais le divorce, ça risque... En tout cas...
Ouais. Oui, ça pose d'autres problèmes, effectivement. Et puis, une autre petite insolite, Harry Potter, qu'on connaît tous.
Ouais.
Les premiers exemplaires de ces livres peuvent se vendre des petites fortunes. Ça paraît surprenant, mais les personnes qui en retrouvent dans leur grenier peuvent faire richesse, peuvent faire fortune grâce à ces exemplaires mis aux enchères.
Alors que les Français et en fait les Européens font de nous, c'est quand même pas si mal, Mathieu. On dit qu'au Québec, en Ontario, généralement ensoleillé, on parle d'un ennuagement en mi-journée, peut-être 30 % de précipitations. Ça, c'est pas mal partout en Ontario et au Québec. Et il fait 25 degrés, l'humidex à 28. C'est quand même assez... c'est quand même pas si pire. Ça, c'est dans le sud du Québec. C'est même pas un facteur ailleurs, l'humidex, dans le reste de l'est du pays. Parce qu'on peut dire que dans le nord du Québec, ça va aller à 18 degrés. En Ontario, on parle de 21, 22, 23, jusqu'à 25 degrés dans le sud. Et puis, dans le nord, pas de pluie, 21 degrés. Par contre, faites attention à tout le monde, les humidex, là, c'est entre 6 et 8, donc c'est de élevé à très élevé. C'est les mêmes conditions dans les provinces de l'Atlantique, maximum 21 là-bas. Il y a juste à l'île du Prince-Édouard où, l'île du Prince-Édouard, où la pluie arrivera cette nuit. Et puis, c'est plus frais à Terre-Neuve, 9 degrés. Alternant soleil et nuages au Manitoba, possibilité d'averses et d'orages cet après-midi en Saskatchewan et en Alberta. On parle de 15 à 21 degrés. Et là aussi, les UV à 6 à 7 degrés. Et c'est du soleil partout en Colombie-Britannique, 24 à 25 degrés. Là aussi, les UV, il faut mettre de la crème. On commence à parler de ça. Hein?
Et pas d'huile.
Mais pas d'huile. Non, l'huile, ça, c'est pour cuire. Bon. Ça y est, quand je fais une erreur, je me fais ramasser. Hein? C'est de même. En 1633, Galilée est condamné par l'Inquisition romaine pour avoir défendu le modèle héliocentrique, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. Contraint d'abjurer, il est assigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Puis il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Bon, voilà. 1949, la grande actrice américaine Meryl Streep vient au monde. Elle a 77 ans, donc aujourd'hui, on la connaît pour des films absolument fabuleux, Le choix de Sophie, Out of Africa et Le diable s'habille en Prada. C'est quand même assez drôle, le premier. Le deuxième, c'est autre chose. 21 nominations aux Oscars. Et puis, elle compte de très nombreuses nominations aussi aux Golden Globes. Et puis, une autre personnalité états-unienne qu'on aime beaucoup, elle a 73 ans aujourd'hui, Cyndi Lauper. Hein? « Girls just want to have fun ». J'ai le temps de vous parler du sommaire de l'émission aujourd'hui. On va parler avec la directrice générale de la Fondation Institut Gériatrie de Montréal, pour parler de la publication des capsules vidéo sur les enjeux de vieillissement qu'on appelle « Chère Jeannette hein, » en l'honneur de notre centenaire adoré. Et puis, on va parler avec l'autrice Sonia Alain pour son roman « Les recluses 1, l'inconnu désargenté ». J'ai lu ça, je trouve ça fort intéressant, roman historique avec plein de rebondissements. Alors, voyons ce que ça va donner avec l'autrice. Et puis, on va parler avec Nicolas Boulris, qui est musicien, cofondateur et porte-parole du Festival Chant de Viel. Et on termine. On va parler du théâtre Notre-Dame de Cœur qui célèbre ses 50 ans, les grandes marionnettes. Alors, on reçoit Richard Blackburn, mais avant, on s'en va en musique.
Malgré tout, je regrette rien. Sache que j'étais là hier et que je serai là demain.
Et si nos chemins se recroisent pas plus tard, j'aurai nos souvenirs dans ma mémoire. Ceux qui reviennent à tous les soirs. J'ai fait de la peine, je sais que je te mérite pas.
Toutes les soirées, posées dans tes bras. Cet amour que j'ai pour toi, tout me remet à toi.
C'était Laurence Saint-Martin avec Gabrielle Fredette qui chantait dans mon tiroir.
Alors, pendant que nos amis français sont en train de suffoquer pratiquement, ben c'est les pluies diluviennes dont on parle ici au Québec. Dans la presse plus, les pluies qui se sont abattues sur le Grand Montréal ont provoqué d'importantes inondations, particulièrement dans l'ouest de l'île, mais aussi sur la rive sud. À Pierrefonds, Roxborough et à Dollard-des-Ormeaux, à Montréal, plus de 300 sous-sols ont été submergés, forçant la fermeture de plusieurs bâtiments municipaux. Le service de sécurité incendie de Montréal a répondu à 1200 appels à la suite de ces intempéries et les pompiers ont secouru 12 personnes coincées dans leur véhicule. La municipalité commence l'organisation de services de ramassage spéciaux et le déploiement d'équipes de bénévoles pour soutenir les sinistrés. Parallèlement à ça, bien, les experts en urbanisme et en environnement soulignent les limites des infrastructures actuelles face à l'augmentation de la fréquence des précipitations extrêmes. Les analyses indiquent que les réseaux d'égouts pluviaux conçus il y a plusieurs décennies ne parviennent plus à absorber de tels volumes d'eau en un laps de temps restreint. Des résidents de Montréal et de la Rive-Sud, notamment à Saint-Constant, songent à intenter un recours collectif contre leur municipalité. Moins de deux ans après son arrivée au pouvoir, le premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé aujourd'hui sa démission après des mois de pression, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Parti travailliste. L'impopulaire chef du gouvernement britannique résistait depuis des mois à des appels à démissionner. Mais sa position est devenue intenable après l'élection jeudi au Parlement de son rival au sein du Parti Labour, au Parti travailliste, Andy Burnham, désormais en position de briguer la direction du Parti travailliste et aussi donc de Downing Street. Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration et d'extrême droite Reform UK, en tête dans les sondages nationaux depuis des mois, a appelé dans la foulée à des nouvelles élections législatives. Le parti travailliste garde une grande majorité au Parlement et des législatives ne sont pas prévues avant 2029. Dans le Devoir ce matin, les discussions bilatérales entre l'Iran et les États-Unis ont débuté en Suisse, s'inscrivant dans le cadre du protocole d'accord signé pour mettre fin à 3 mois de conflit au Moyen-Orient. C'est pour parler technique, prévu pour durer 60 jours, se concentre principalement sur le programme nucléaire iranien. La diplomatie iranienne a toutefois averti que le processus de négociation demeure fragile en raison de la poursuite des affrontements entre Israël et le Hezbollah au Liban et les déclarations évidemment intempestives du président des États-Unis, Donald Trump. Et puis maintenant, on va en Colombie. Dans le Devoir, eh bien, c'est l'avocat d'extrême droite dure Abelardo de la Espriella qui a remporté le second tour de l'élection présidentielle en Colombie, un scrutin marqué par une forte polarisation et une recrudescence de la violence. Le nouveau président, admirateur déclaré de Donald Trump, a bénéficié du soutien de ce dernier pour l'emporter face à Ivan Cepeda, le candidat de la gauche qui s'inscrivait dans la continuité du gouvernement de Gustavo Petro. Cette élection marque un virage politique pour le pays après une fin de campagne où le camp de la gauche avait axé son discours sur la défense de la souveraineté nationale face aux influences extérieures. Je tourne dans les paractualités maintenant dans le but d'amasser des fonds pour la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. L'entraîneur Sylvain Sébastien Santamaria a relevé un défi inusité de marcher près de 12 heures avec une charge de 112 livres sur le dos. Alors, c'est en Radio-Canada.ca du 21 juin, tout ça. En travaillant régulièrement avec des personnes atteintes de handicap physique, Sylvain Sébastien Santamaria a effectué 106 tours de la piste d'athlétisme de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda ce samedi. Alors, il a marché 42 km, ce qui équivaut à la distance parcourue par un marathon. Il a réussi à amasser sur la plateforme de sous-financement GoFundMe 15 000 $ pour la ressource, donc pour les personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Oui, dans le quotidien du 21 juin 2026, les syndromes d'Ehlers-Danlos, un groupe de maladies héréditaires du tissu conjonctif touchant la production de collagène, souffre encore donc d'un important déficit de reconnaissance médicale. Bien que les données récentes démontrent que ces pathologies ne sont pas si rares, elles demeurent causées par les maladies orphelines en raison de la complexité de leur prise en charge. Les patients doivent faire face à un long parcours avant d'obtenir un diagnostic précis, souvent en raison de la grande diversité des symptômes qui incluent l'hypermobilité articulaire, la fragilité tissulaire et des douleurs chroniques sévères. Les spécialistes et les regroupements de patients réclament une meilleure formation des professionnels de la santé et la création de corridors de services spécialisés. Une détection plus précoce s'avère essentielle pour mettre en place une réadaptation adaptée, prévenir les complications articulaires majeures et améliorer significativement la qualité de vie de ces personnes atteintes.
C'était Mélisandre et Damien Robitaille pour la chanson À l'abri du tempo.
Louis de Bernis, de plus en plus de mariés préfèrent les tatouages aux alliances éternelles et moins chères.
Oui, une tendance dont je vous parle, bon, qui reste assez marginale encore, hein, mais elle gagne progressivement du terrain, notamment dans la génération Z. Un tatouage imaginé sur le doigt plutôt qu'une alliance, l'option semble pour certains osée, trop osée, inenvisageable presque, mais pour d'autres, eh bien, elle commence à avoir des convertis. Pour préparer leur mariage, des couples frappent désormais à la porte des tatoueurs, parfois plutôt que celle des bijoutiers. Le choix se veut à la fois symbolique, mais économique, il faut le dire, pratique, voire même esthétique. Vous savez ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. Une alliance s'enlève alors qu'un tatouage est en théorie pour la vie. Cette marque indélébile devient ainsi pour certains le symbole d'une union éternelle qu'on a au doigt chaque jour. L'argument a une petite fragilité quand même dans la mesure où les tatouages sur les doigts notamment sont ceux qui s'effacent le plus rapidement avec le temps. Ils ont tendance à s'estomper plus rapidement que sur le reste du corps.
Parce qu'on lave plus souvent peut-être?
Parce que aussi la peau se régénère. Comme on utilise beaucoup les mains, la peau se régénère plus régulièrement.
Donc en autant que le divorce n'arrive pas trop vite, ça va être bien correct.
Ça peut être ça, effectivement. Il arrive, explique ce tatoueur, qu'il faille refaire certains petits détails, des retouches de temps à autre pour redonner un peu de pigment à ses tatouages sur les doigts.
Ça doit faire mal.
Un fin tatouage plutôt qu'un bijou en or. Sur le plan du prix, c'est là qu'est un des principaux arguments. Hein. La première option fait clairement baisser la note. On a fait un demi-tour du doigt uniquement parce que l'encre en dessous dans la paume ne tient pas très bien, raconte ce couple. Je crois que nous avons payé environ 75$ chacun. 50€, se souvient Anne Chantal, qui a franchi le pas du tatouage en 2019 déjà, il y a quelques années. En France, selon une étude, le budget moyen d'une alliance tourne autour de 400€, 600$ canadiens, donc on voit bien que le tatouage est moins dispendieux. Le choix, ceci dit, obéit parfois à une contrainte, hein, pour des raisons de sécurité, ça peut être. Certains métiers n'autorisent pas le port d'une alliance, hein. Certains ont peur de l'abîmer. Dans ce cas, le tatouage apparaît comme une solution de contournement. Ce monsieur explique par exemple, je travaille dans le jardinage tous les jours, donc porter une bague n'est pas pratique du tout. J'ai un tatouage et une alliance aussi que je porte uniquement pour les grandes occasions spéciales, explique Maurice. La raison est parfois toute personnelle aussi, hein. Certains n'aiment pas porter de bague. Un couple de longue date est venu voir ce tatoueur parce qu'il n'avait plus envie de porter une alliance au quotidien. Alina, sa consœur, une autre tatoueuse complète. Un couple aussi qui était ensemble depuis 35 ans. Au fil des années, ils avaient pris un peu de poids, leurs vraies alliances ne leur allaient plus. Ils ont donc choisi de se faire tatouer une alliance à la place. Selon une enquête assez récente, mars 2026, menée auprès d'Américains, 25% des couples de la génération Z, c'est-à-dire nés entre la fin des années 90 et 2010, s'avouent ainsi séduits par le tatouage alliance plutôt que l'alliance en or. Et on verra dans les années qui viennent si on voit apparaître de plus en plus de tatouages.
Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a encore tant de monde qui veulent se marier, mais après ça, c'est autre chose. ça doit tellement faire mal. Dans une édition rare d'Harry Potter, désormais dormait depuis 30 ans dans son grenier. Puis là, on dit que le livre qu'on a payé 10$ en vaut
30 000. Imaginez, on peut faire fortune grâce à Harry Potter. Ça nous semble une histoire relativement récente quand
l'autrice
même.
L'autrice a fait beaucoup d'argent avec ça.
Oui, l'autrice aussi, effectivement. Mais si vous êtes collectionneur, visiblement, les exemplaires d'Harry Potter se vendent bien. Sans le savoir, c'est une histoire qui nous vient du Royaume-Uni. Depuis 30 ans, elle vivait avec dans son grenier un petit trésor. Elle est critique littéraire. Elle avait reçu un ouvrage d'exception en 1997, noyé parmi d'autres. Elle était alors âgée de 24 ans. Katrina McNichol n'avait même pas pris le soin d'en parcourir quelques lignes. Elle l'avait mis directement dans un carton. Bon, il faut dire qu'à l'époque, Harry Potter était un héros très discret encore, presque anonyme. Le phénomène n'avait pas du tout encore explosé mondialement. La jeune femme avait simplement pris soin de garder ce livre avec d'autres à l'abri de la poussière. Bien lui en a pris. Pendant 3 décennies, cet exemplaire, issu de la toute première édition de Harry Potter à l'école des sorciers, n'a pas vu la lumière du jour du tout. Le roman, édité au format de poche, est resté au chaud dans son carton entreposé au grenier. La critique britannique avait complètement oublié et cette boîte et ce bouquin. À l'origine, le roman était commercialisé 4,99 €, donc 6$ à peu près. 30 ans plus tard, à la faveur d'un coup de baguette magique, sa valeur est complètement décuplée. récemment mis aux enchères. Il a donc été adjugé à 17 000 livres sterling, soit environ 30 000 dollars canadiens, et va rejoindre la bibliothèque d'un collectionneur privé britannique. Il s'agit là donc du nouveau record mondial pour un livre des aventures du jeune sorcier. Le précédent était de 12 000 livres sterling, environ 21 000-22 000 dollars canadiens en 2025. Et donc voilà, les années passent et les exemplaires d'Harry Potter prennent de la valeur.
Merci beaucoup, Louise Bernis. On prend une pause la semaine prochaine, le 29, mais on est de retour le 6 juillet.
Ah, dans deux semaines.
Dans deux semaines. Qui nous est arrivé un petit peu par surprise, parce que ça nous arrive des fois de se tromper. Alors, on a avec nous Hubert Sabineau-Brunette qui dirige le festival Cinéma sous les étoiles ici à Montréal. Et c'est le temps d'en parler parce que ça commence bientôt.
Ça commence cette semaine, oui, le 25.
Alors, qu'est-ce que c'est ce festival? Expliquons un peu qu'est-ce qui se passe, parce que là, on va voir des films... Le soir, sous les étoiles.
Exactement. Bien, c'est du cinéma documentaire à caractère social, politique, environnemental. Donc, c'est la 17e année, cette année, qu'on propose ça.
Ça avait marché fort l'an dernier, si je me rappelle.
L'année passée, ça a été une superbe édition. La météo a été de notre côté aussi, puis on a eu des super belles foules. Donc, puis on revient cette année avec un petit peu plus de projections encore, donc une quarantaine de projections.
Et ça se déroule sur combien de temps, tout ça?
C'est jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, vraiment pendant presque deux mois.
Alors, comme je pose à chaque fois, je pose la même question. Est-ce qu'il y a des films, des titres spéciaux, des choses à retenir cette année, là, peut-être des faits marquants que tu aimerais nous partager avec
toi? Une nouveauté que je trouve assez intéressante. Cette année, on a des projections au Mont-Royal, donc avec les Amis de la montagne. C'est les festivités du 150e anniversaire du Mont-Royal. Donc, ils nous ont invités à programmer avec eux une programmation de trois titres autour du rapport à la forêt, du rapport à la nature, du rapport à l'urbanisme. Donc, on a trois films qui viennent complémenter un petit peu ces réflexions-là sur ces enjeux-là, donc directement sur la montagne, donc un endroit magnifique au lac au Castor. Donc, je pense que ça devrait être des super belles projections. Sinon, le film d'ouverture, qui est une première québécoise, c'est la première fois que le film est présenté en français au monde entier.
Ah, oui.
Donc, il y a une équipe, c'est lié avec l'Université de Sherbrooke en traduction, qui sont en train de faire les sous-titres. Le film s'appelle Steal This Story, Please,
oui,
qui est un portrait de Amy Goodman de Democracy Now, donc à la fois de elle en tant que journaliste, mais aussi l'émission de télé qu'on connaît, qui est commencée à la radio. Donc, un vrai beau portrait qui montre l'importance, en fait, du journalisme indépendant, des médias indépendants, donc comme vous ici, comme d'autres, il y en a différents exemples au Québec. Cette projection-là est en partenariat avec Pivot, qui font aussi un travail assez exceptionnel.
C'est un média qui est indépendant aussi, qui fonctionne uniquement avec les dons du public.
Exact.
Donc, ce film est présenté quand et où?
C'est le 25 jeudi au Parc Laurier.
Oh, déjà, le 25.
Oui.
On est en train de travailler sur les sous-titres présentement.
Bien, ils sont faits, là, mais...
Okay.
OK,
je voudrais vous dire, vous êtes en train de travailler dangereusement.
Non,
vous me faisiez
non.
peur, vous, là. Est-ce qu'il y a d'autres projections à souligner?
Oui, bien, toute la programmation a été pensée un peu au niveau de l'idée de résistance puis de repenser le monde un petit peu autrement, donc avec soit des gestes de résistance un petit peu comme le journaliste ici, la résistance des étudiants noirs à l'Université Concordia à l'époque qui s'appelait Sir John, qui permet d'ancrer ce moment historique-là d'occupation, de résistance à l'université, mais dans un contexte vraiment plus large de racisme envers les Noirs au Québec, au Canada.
Et c'est drôlement d'actualité ces jours-ci avec ce qui se passe à Montréal-Nord.
Malheureusement, un film excellent. La cinéaste qui habite maintenant à New York, mais sera présente à Montréal pour venir discuter aussi avec le public après les projections, parce que chacune de nos projections sont suivies d'une discussion, soit avec cinéastes, soit avec militants, militantes, professionnels, spécialiste des sujets qui sont abordés dans les films.
Il y a des thématiques que vous allez projeter ou que vous programmez. Si je me rappelle, je pense que je l'ai vu aussi cette année, on parle de la forêt.
Oui.
D'une part. Il y a d'autres thématiques?
Oui, bien, on a toujours la semaine de l'environnement. Oui. Donc, c'est une semaine complète autour de différents enjeux liés à l'environnement, entre autres l'agriculture, l'alimentation,
et
l'exploitation
ça, c'est quelle
des
semaine,
ressources.
Ça?
C'est quelque part en juillet, désolé.
Ben, oui, désolé, on pourra vérifier. On n'est pas, oui, on peut dire aux gens d'aller faire un tour sur le site web. Là,
oui,
de...
tous les renseignements sont là, puis c'est vraiment pratique. Le site web nous permet de chercher par date et par parc. Donc, on sait que les gens, principalement, vont dans le parc qui est près de chez eux ou chez elles. Donc, c'est vraiment une bonne façon de voir qu'est-ce qui est.
C'est du 13 au 19 juillet en passant la semaine de l'environnement.
Merci.
J'ai le communiqué qui vient d'apparaître tout à fait par hasard. Il y a quand même une compétition de courts-métrages aussi.
Oui, tout à fait. On programme des courts-métrages pendant une semaine du court-métrage. Là, encore là, la semaine exacte, je l'ai pas...
Ah, je l'ai ici. C'est autour du 26 juillet. Pourquoi que je sais ça? C'est parce que c'est ma fête le 26.
Bon.
Voilà, du 20-26 juillet. Il ne reste pas beaucoup de temps. Si on veut s'informer, on va où et quand, comment?
On suit sur le site Internet puis sur les réseaux sociaux aussi. On a toutes les informations qui sont là sur les projets.
Puis on dit aux gens, amenez-vous une chaise pliante.
Une couverte. Une petite bière, quelque chose à manger.
Oui, on s'est permis à ce moment-là. C'est pas toujours permis dans des lieux publics, mais on peut le faire lors des visionnements comme ça. C'est... Et s'il pleut?
S'il pleut, on prend la décision autour de 17 heures, puis on annonce sur les réseaux sociaux, mais les projections sont reportées.
Puis si je comprends bien, c'est gratuit tout ça. Hein?
Tout ça est gratuit, oui. C'est vraiment important. Ça fait partie d'un processus de démocratisation de l'accès à la culture.
On aime ça quand c'est gratuit, puis on aime ça, le cinéma sous les étoiles. Merci beaucoup d'être venu faire un tour à l'émission aujourd'hui, de nous parler de tout ça, puis bon succès à vous.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup. Alors nous, après la pause, nous allons parler de la Fondation Insuge de gériatrie de Montréal qui va nous parler de ses capsules chères Jeannette. Et on va parler aussi du roman de Sonia Alain, Les Récluses, l'incongru désargenté. C'est le premier tome. On verra aussi si la suite va continuer aussi, évidemment. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, bien, un peu partout au pays, c'est du soleil. On n'est pas dans les chaleurs épouvantables comme c'est en Europe, mais bon, on parle d'un petit humidex à 28 degrés ici au Québec. Et puis, il y a des risques d'orage, de pluie. Mais vous savez, pour la Saint-Jean-Baptiste, il paraît qu'il va faire beau. Alors, on reste à l'écoute, on revient après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je sais pas freiner. Mets tes genouillères, mets ton casque si tu veux m'aimer. Encore effrayé, le chemin d'hier n'était pas comme j'en ai rêvé. Ensommeillé, j'ai peur de faire des cauchemars, donc je reste éveillé. Je reste éveillé, parfois je confonds l'airbag avec l'oreiller. Désolée si ça secoue, je peux pas ralentir. Et pour l'instant, tu peux pas conduire. Parce que j'ai eu un mauvais copilote. Le genre qui conduit bourré à contresens quand ça lui botte. Qui veut plus que tu sortes, qui cache les clés, qui verrouille les portes. Qui s'en fout bien quand tu lui dis non, qui t'arrache ta culotte. Il va falloir du temps avant que je te laisse le volant. Il va falloir du temps, j'espère que tu comprends. La marche arrière, ça marche que quand tu te gares. Ça marche pas quand ça foire. J'ai beau me rassurer, me dire que rien ne sera pire, que je suis sauvée. Même bien entourée, je fixe le rétro prêt à fuir comme si on me suivait. Pour ne plus trembler, au son d'un cri, d'un klaxon, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, même quand il n'y a plus personne, je me sens surveillée. Désolée si ça secoue, je peux pas ralentir, et pour l'instant tu peux pas conduire. Parce que j'ai eu un mauvais copilote, le genre qui conduit bourré, à contresens quand ça lui botte. Qui veut plus que tu sortes, qui cache les clés, qui verrouille les portes, qui s'en fout bien quand tu lui dis non, qui t'arrache ta culotte. Il va falloir du temps avant que je te laisse le volant. Il va falloir du temps, j'espère que tu comprends. Parce que j'ai eu un mauvais copilote, de rester quand je dois partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
La chanson « Conduire » de Louane.
Louane qu'on a vu dans le film « La famille Bélier, mes chers parents, je pars hein, ». C'était beau, ça. Oui, bien, il y a quelques mois, nous recevions déjà ma prochaine invitée pour parler d'un appel à témoignages et à questions sur les enjeux du vieillissement et de la prochaine danse. Ça s'appelait « Chère Jeannette hein, », en l'honneur de notre grande Jeannette, notre centenaire adorée. Et puis, la campagne a eu un succès retentissant. Et pour en parler, ben nous recevons à nouveau donc Marie-Hélène Vendette, qui est directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. Madame Vendette, bonjour!
Bonjour, M. Chabot.
Ça va bien?
Ça va bien vous-même.
Oui, ben quand il y a du beau soleil, ça fait toujours du bien. Hein, ça... On a beau dire que ça ne nous affecte pas, ça nous affecte quand même. Alors, on a reçu des milliers de témoignages de la part d'aînés, de proches aidants, de proches aidantes. Quelle a été la réaction initiale devant l'ampleur de ce succès?
Écoutez, on savait que de mettre sur pied ce projet-là, qui était une idée de Jeannette Bertrand, allait trouver un écho très favorable. Est-ce qu'on pouvait prévoir un engouement aussi grand? On le souhaitait parce que c'est assez peu commun de donner cet espace-là aux aînés pour s'exprimer. Donc, on le souhaitait et on peut dire vraiment qu'on a été vraiment enchantés de la réponse positive à ce point-là.
J'ai pas mentionné, mais combien de témoignages vous avez reçus en tout?
Ah, écoutez, c'est des milliers là, qui sont rentrés via le formulaire de la Fondation. Et comme Jeannette l'a répété plusieurs fois, là, elle les a tous lus, ces témoignages. Ah, et tout... c'est vrai.
Ah, mon Dieu. Elle, vraiment, là, quand on s'embarque en quelque chose, hein, il va jusqu'au bout. Mais justement, elle prête sa voix, Jeannette, et son écoute à cette démarche. En quoi on peut dire que son rôle d'ambassadrice a contribué à ce succès retentissant?
Écoutez, je pense que les aînés, les proches aidants, il faut mentionner aussi que les proches aidants étaient invités à écrire à Jeannette ce qui les préoccupait, les défis de leur quotidien, donc tout comme les aînés. Je pense que sachant que c'était Jeannette Bertrand qui allait en prendre connaissance, tout de suite, ils étaient en confiance. Jeannette Bertrand, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, puis c'est ce qu'elle voulait faire hein, dans le cadre de cette campagne-là avec la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, d'écouter sans jugement, en grande ouverture pour apporter par la suite de la bienveillance et des réponses. Donc, les gens se sont sentis en confiance, se sont confiés, se sont révélés. Et pour une fondation comme la nôtre qui agit pour le mieux-être des aînés, vous comprenez que c'est aussi un contenu extraordinaire pour nous permettre aussi, éventuellement, dans le futur, d'orienter nos actions pour être encore plus arrimés avec les besoins des aînés.
On va y arriver à ça, mais il y a quelque chose que je trouve important, me semble, dans cette campagne-là. Comment a-t-elle contribué à aider les gens à briser l'isolement, non seulement des personnes vieillissantes, mais aussi des proches aidants, proches aidantes, puis à confier leurs plus grandes inquiétudes?
D'être écouté, ça fait une grande différence. C'est ce qu'on a réalisé. Les aînés écrivaient à Jeannette et souvent les messages se terminaient en disant « Ben écoutez, juste de vous parler, ça m'a fait du bien. » Et étonnamment, on peut avoir cette impression-là que tout devait être noir et très, très sombre. Au contraire, on a été étonnés de voir à quel point, oui, il y a des défis, oui, il y a des enjeux, mais il y a énormément de lumière dans les messages de nos aînés. Essentiellement, ils nous disent « on est là, on est important, on veut contribuer, on veut être entendu », mais c'est dans des actions parfois qui sont assez faciles à intégrer dans notre société ou par des conseils. En nos aînés, on a pu le voir, ils ont des craintes. Mm-hmm. Mais de pouvoir les adresser, des craintes par rapport à la santé, par rapport à l'avenir, de pouvoir les adresser, surtout nous, de pouvoir y répondre avec nos spécialistes à l'Institut de gériatrie de Montréal. Écoutez, c'est déjà une belle étape de franchie, là.
Oui, c'est pas parce qu'on prend de l'âge hein, qu'on se retrouve dans une chaise berçante devant la télé à flatter son chien puis à regarder des téléromans. Je peux vous le dire, moi, je vais avoir 65 ans le mois prochain puis c'est pas du tout dans mon intention de faire ça. Mais je dis ça à la blague, mais c'est parce que je pense qu'il faut changer notre vision aussi de comment on voit les personnes vieillissantes dans notre société.
Absolument, Absolument. Et puis, vous savez, nos aînés d'aujourd'hui ne sont pas du tout nos aînés d'hier. Quand on a parfois, peut-être cette image-là un peu stéréotypée de nos aînés qui n'ont qu'envie de jouer au bingo. Écoutez, nos aînés d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont vécu la Révolution tranquille, qui ont voyagé, qui ont été vraiment imprégnés d'art, de culture, d'histoire. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, en tant qu'aînés, demandent beaucoup plus et veulent beaucoup plus, s'attendent à plus.
Puis ils ont encore des choses à contribuer. Je vais aller au résultat de ces, oui. de ces témoignages parce que la Fondation lance une série de 4 capsules vidéo qui s'attaquent à des sujets très concrets. Donnez-nous des exemples donc de ces sujets.
Ce sont en fait les thématiques qui ont été prédominantes dans les conversations, que les messages que les aînés nous ont envoyés. Donc, on est allé chercher les experts de l'Institut de gériatrie de Montréal ainsi que de son centre de recherche, donc des gens qui sont vraiment très, très, très des sommités dans leur domaine. On va donc aborder la question de la gestion de la douleur chronique avec David Lucier, docteur David Lucier, qui est d'ailleurs le gériatre de Jeannette Bertrand, elle le dit là, d'emblée. Ces capsules-là, ce sont des conversations avec Jeannette et les spécialistes. Donc, il y en a un sur la douleur chronique. Il y a une de ces capsules-là sur l'incontinence urinaire, donc qui touche quand même une femme sur deux à partir de 60 ans. Donc, c'est un enjeu qui est majeur, qui est très tabou. Évidemment, avec une Jeannette Bertrand, vous comprenez qu'elle lève le tabou sur ce sujet-là pour le rendre, lui enlever parfois l'importance qu'on peut lui attribuer, donc le ramener dans des perspectives beaucoup plus gérables et donc avec professeur Dumoulin.
Il y a que Jeannette hein, qui continue de déniaiser le Québec, comme on dit.
Écoutez, je vais pas vous voler le punch, comme on dit, mais je vous invite à l'écouter parce qu'il y a que Jeannette qui peut prendre un sujet si délicat vraiment dans tout son humour et sa grande ouverture. Donc, et c'est extrêmement important parce que malheureusement, c'est irréversible et puis les femmes le savent pas et vont parfois s'isoler. Donc, les conséquences sont majeures. Alors, vraiment, je ne peux que vous inviter à l'écouter.
Je vais aller voir ça, c'est clair. Les deux autres sujets, on parle de troubles neurocognitifs.
Ah, oui, exactement. Et Dr. Tanou, qui est un gériatre chercheur. Donc, entre autres, l'Alzheimer, hein, on a tellement vu à quel point nos aînés ont peur de l'Alzheimer, leur famille également, leurs proches également. C'est important de savoir quand est-ce qu'on s'inquiète, à quel moment on peut commencer à dire, ben mon Dieu, est-ce que j'aurais l'Alzheimer? Parce qu'on l'a vu à quel point c'est quelque chose qui fait peur. Donc, je pense que de donner des informations en ce sens-là est extrêmement rassurant et porteur. Et puis, finalement, on va aborder la question de la santé mentale de nos proches aidants. On le sait, c'est un rôle qui est extraordinairement important avec la docteure Doris Claire qui est gérontopsychiatre. Et donc, c'est une capsule aussi qui fait énormément de bien à écouter dans tout ce qu'elle apporte de très concret comme piste de solution. Donc, c'est vraiment des thématiques qui sont revenues régulièrement dans les messages et qui, pour nous, étaient importantes à adresser.
On trouve ça où, ces capsules?
Alors, c'est sur le site de la Fondation à cherjeannette.com. Mm-hmm. Donc, cherjeannette.com et vous arrivez directement sur ces capsules qui sont présentées par la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.
Bon, vous avez reçu des milliers là, de commentaires et de questions. J'imagine que ce sont là que les premières capsules, il y en aura d'autres?
On le souhaite ardemment parce qu'en effet, des thématiques et des défis, il y en a énormément qui ont été évoqués, mais le plus important, c'est de dire qu'il y a des pistes de solutions. Il y en a énormément aussi. Et à l'Institut de gériatrie de Montréal, au Centre de recherche, nous, c'est ce qu'on souhaite comme fondation, pouvoir rendre accessibles toutes ces connaissances-là qui font une grande, grande différence là, pour nos aînés et leurs proches.
Et rappeler aux gens qu'on peut vivre vieux en santé et heureux.
Exactement.
Ah, c'est important tout ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Marie-Hélène Vendette, directrice de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. Fondation qui a été créée en 1982, je le rappelle, et qui a versé au cours des dernières années, on parle de 30 millions de dollars pour le développement et de la recherche scientifique et les soins cliniques hein, sur la gériatrie. C'est pas rien. Hein? Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Oh mon Dieu, j'ai voulu. bercera ensemble.
Claudel et sa chanson « Fou de nous deux ».
Mathieu, on se rappelle tantôt hein, Louis de Bernis qui nous a dit qu'un exemplaire du livre d'Harry Potter qui avait été payé comme 10 $, qui en valait 30 000. Mais moi, je reçois beaucoup de livres qu'on me demande de lire. Puis de temps en temps, tu sais, je me dis, ah, ben, je vais faire une entrevue là-dessus. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Puis espérons que ce livre vaudra peut-être dans quelques années 30 000 $ aussi. Voilà. Alors, on plonge dans la romance, la romance historique dans ce roman. C'est une belle histoire d'amour avec des amants improbables et un vilain, un grand vilain, il est à verger dessus, comme on dit, qui sème le doute et la misère sur son passage. Je reçois donc l'autrice Sonia Alain pour discuter de son tout nouveau roman, Les Recluses, tome 1, L'inconnu désargenté. C'est publié aux éditions Réunies. Allô Sonia, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci pour l'invitation, puis je trouve trop cute votre introduction.
c'est tellement drôle parce que, je vais le dire d'emblée, je ne lis pas beaucoup de romances, mais de temps en temps, on m'en envoie, puis là, je me dis, ah, il me semble que ça ferait du bien parce que je ne peux pas parler que des choses qui sont d'emblée dans ma table. Puis j'ai été agréablement surpris de lire ce roman passant, qui est fort bien écrit, je le dis, là. Alors, écrire un roman, je le sais, hein, ça demande toujours de la recherche parce que... On peut pas écrire n'importe quoi. Les gens vont dire, ben non, mais ça se peut pas. Alors, faut qu'on soit crédible. Puis là, je me dis, moi, j'écris des romans, mais j'ai jamais fait du roman historique, là. Ça doit être encore plus compliqué de faire ça, de la recherche. Parle-nous un peu de ce travail que ça vous a pris.
En fait, pour ma part, je prends un mois complet intensif.
Ah oui.
Où je fais que la recherche. Donc, au début, j'ai un petit peu sur le web pour me trouver des pistes de sujets en lien avec ce que je veux parler. Puis après, ben, je peux vous dire que mon libraire du quartier m'aime beaucoup parce que j'achète énormément de livres, d'histoires, de références et tout ça. Et là, je passe un mois à éplucher ces livres-là, à prendre des notes. Et pour moi, c'est agréable aussi de le faire parce qu'il y en a qui disent « Ah, ça doit être fastidieux ». Mais non, parce que moi, ça me donne plein d'idées pendant que je fais ces recherches-là. Ça me donne plein de matière à mettre dans mon roman aussi, parce que j'ai mon idée de base, mais oui. Ça me rajoute du matériel. Donc, non, c'est un volet très, très, très important, parce que, comme vous dites, il faut être le plus exact possible.
Oui. Bien, ça rend la lecture aussi plus agréable, parce que, bien, c'est crédible, ça fonctionne. J'ai pas fait une fois un petit... Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je fais ça souvent, je lis. Est-ce que c'est vrai, ça? Je vais aller vérifier. J'ai pas fait une fois en lisant votre roman.
Ah, bien, tant mieux.
C'est déjà ça. On va parler d'Alexia. Pardon?
Oui. Oui. Excusez, dans souvent les réflexions, les gens me disent que lorsqu'ils lisent comme ça mes romans historiques, ils ont l'impression de voyager dans le temps.
Effectivement.
Donc, effectivement. Pour moi, c'est important, ça.
Alors, le personnage principal s'appelle Alexia Hastings, qui passe d'une vie très libre en Angleterre à un pacte particulièrement difficile pour sauver sa fratrie. Alors, comment est né ce personnage?
En fait, pour moi, c'est toujours important, peu importe les romans que j'écris, d'avoir des personnages forts, mais des personnages qui évoluent aussi. Donc, et j'avais le goût de faire quelque chose de l'époque victorienne, mais un petit peu différent aussi. Et là, est venue l'idée de Les Recluses. Donc, les trois tombes, ça va être trois filles qui sont mises en retrait de la société. Et là, ben, fallait que je trouve comment ces filles-là peuvent être mises en retrait de la société. Puis là, j'ai mis jeté. Puis c'est comme ça que je suis venue à bâtir le personnage là, d'Alexia.
Elle est, oui, elle est recluse, mais sans vendre trop le punch, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quand même un personnage qui est très consciente que c'est injuste ce qui lui arrive. Je sentais un petit début de féminisme dans ce personnage.
Oui. Ben, en fait, c'est parce que puis il y a des gens qui vont lire comme ça des romans historiques des fois, puis ils vont dire, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, les femmes, comment c'était. Mais j'aime montrer ce que ça ressemblait en mm-hmm. tant que femme à ces époques-là. Et oui, à même dans cette période-là de Alexia, les femmes commencent, les suffragettes arrivent et essaient de faire valoir leur point, tout ça. Puis c'est ça aussi que je voulais un petit peu, cette étincelle-là, comme vous dites, faire naître aussi là, à travers mes trois personnages là, qui vont être les trois tomes.
Bien, moi, je le dis comme lecteur, c'est ce qui m'a gardé intéressé parce que je m'étais dit que c'était complètement soumise. On voit quand même qu'elle a des... Il y a un débat en elle. C'est ça qui rend la lecture intéressante aussi. Je pense qu'on est capable, nous, avec notre regard de 2026, sans jugement, mais comprendre que, oui, elle se soumettait, mais elle n'était pas d'accord avec ça.
Exact. Mais j'aime beaucoup travailler aussi la psychologie de mes personnages. Oui. Fait que tout ça fait que ça donne un peu la sauce qu'on a là, dans mes romans. Là.
Bon, alors l'histoire, ça commence en 1852. On parle, on l'a dit, une Angleterre victorienne très rigide. Puis elle se déplace en Martinique. Là, c'est quoi qui vous a donné l'idée de voyager en Martinique?
En fait, c'est souvent comme ça. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Je suis curieuse de nature, j'aime aller voir les lieux, tout ça. Et à un moment donné, j'avais fait un passage à la Martinique. Mm-hmm. Et on avait visité une vieille distillerie de ces années-là, donc une des premières distilleries donc de ces époques-là. Et je suis tombée sous le charme de la maison, de la distillerie, de ce que ça évoquait autour. Puis je me suis mis à regarder par curiosité, faire un peu de recherche. Puis là, j'ai fait comme, oui, c'est là que je m'en vais.
C'est bon.
Mon personnage s'envole là parce que je trouvais que ça, là aussi, ça l'emmenait une couleur différente aussi du roman d'époque contemporain victorien. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit-là. Puis je dis, ah, on part de là.
Alors là, j'aime beaucoup, vous avez de l'humour, puis je vais me permettre de vous taquiner, Sonia, parce que moi, à chaque fois qu'on crée des personnages, je me dis, il y a toujours un peu de nous-mêmes là-dedans. On va parler donc de Peyton Blount. Je suis vraiment vilain. Hein. Ce matin, j'ai le goût de taquiner les gens un peu.
Alors,
c'est le grand méchant d'une cruauté implacable. Qu'est-ce qui a nourri l'écriture d'un tel antagoniste dans ce récit?
En fait, j'aime beaucoup faire des personnages comme ça.
Oui. Vraiment.
Puis j'aime, après ça, lorsque les lecteurs me reviennent et qui me disent, « Ah, lui-là, je l'ai haï, pas possible. Tu » sais. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça provoquer ces réactions-là aussi chez les lecteurs. Puis on m'avait dit un jour, plus on fait souffrir nos personnages principaux, plus ils sont attachants. Donc, pour faire souffrir les personnages principaux, ça prend un antagoniste assez qui fait beaucoup réagir. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que j'aime, une fois de temps en temps, comme ça, créer un personnage, mais vraiment détestable, mais qui reste crédible, mais qui fait réagir les gens, là, tu sais, qui va les chercher. C'est ça.
En fait, il y a beaucoup de thématiques et de sous-thématiques dans ce roman parce qu'il y a les amis de Peyton, puis il y a aussi les amis de Daxton Miller, dont on n'a pas parlé, on y arrive. Il y a des gens là-dedans, je me dis, mais il me semble, on parlait de sexualité hors mariage, on parle même d'homosexualité dans certains cas. Alors, vous nous proposez donc des personnages assez colorés. Parlons de Daxton Miller.
Oui.
Ça, c'est celui qui va sauver Alexia.
Exact. Donc, encore là, je voulais... J'aime pas quand mes romans restent en surface.
Oui.
J'aime beaucoup avoir donné beaucoup de couleurs à mes personnages. Puis, je me disais, bon, étant donné que je voulais absolument la Martinique, que je voulais, donc, que j'avais besoin d'une distillerie avec plantation de canne à sucre, tout ça, ben ça me prenait un personnage qui puisse se fondre autant dans ce décor-là qu'en Angleterre aussi, là, parmi les terres et tout ça, de la gentry de l'époque victorienne.
Ouais.
Donc, je me suis dit, ben là, si je le fais, puis comme la Martinique, c'est français, à cette époque-là, ça a été beaucoup français. Puis je me disais, OK, là, j'ai un personnage qu'il faut qu'il soit en Angleterre, donc anglais. Fait que c'est comme ça que c'est bâti, ce personnage-là, moitié français, moitié anglais, donc la liberté qu'il a pris, parce qu'en France, c'était beaucoup plus ouvert, plus léger que ce qui était en Angleterre, très rigide, là, très collet monté et tout. Fait que je me disais, si ce personnage-là vit, est élevé avec les deux principes, les deux nationalités, les deux façons de vivre, je me disais, ça va donner un personnage particulier aussi. Oui. Mm-hmm. Donc, et le fait est que j'aime avoir des personnages aussi, bon, qui ont des petits côtés sombres, mais qui restent avec une noblesse dans l'âme.
Oui.
Et c'est ça qui est le fil conducteur pour mes personnages masculins. Puis c'est comme ça que donc j'ai construit Daxton.
Il va faire une proposition. Je pense que je vais pas donner... Ben oui, petit bout, je vais pas trop divulgâcher, mais il va proposer à Alexia de le suivre aux Antilles. Puis là, ben, je laisse faire le reste pour que les gens puissent le lire. Parce que moi, j'ai horreur, comme disent, la fin avant que j'ai fini de lire mon livre.
Oui, c'est ça.
Bon, cela dit, est-ce qu'il y a des suites? On en a parlé. C'est quoi la suite qui s'en vient?
Ben, en fait, moi, il va y avoir 3 tomes. Je suis en train d'écrire en ce moment le tome 2.
Oui.
Et c'est ça, les 3 tomes, ça va être 3. On va suivre le parcours de 3 personnages féminins différents. Donc, il va y avoir 3 histoires différentes, mais il y a un lien entre les personnages de chacun des tomes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans le tome 2, on a un groupe qui est avec Peyton, un groupe d'hommes autour de lui qui sont pas bien plus gentil que lui, si on peut dire. Et donc, dans le deuxième tome, le personnage féminin, ça va être la sœur de un des hommes qui est à coquiner avec Peyton Bloom.
Bon, ça risque... Donc, en tout cas, ça promet.
Ça promet. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir les 2 autres personnages du tome 1 qui vont revenir un peu, ce personnage-là. Tu sais, donc, c'est ça. J'aime aller... en fait, les 3 romans vont pouvoir se lire seuls, sans problème.
Oui.
Mais... si on lit la trilogie, ça va être fun de voir les clins d'œil, les liens entre les personnages.
Bon, ben vous direz à votre relationniste de ne pas m'oublier pour le tome 2, parce que là, je vais vouloir le lire.
Ça va me faire plaisir.
Je rappelle donc que le premier tome de la saga Les Recluses, L'Inconnu désargenté, c'est disponible en librairie au prix de 29,95. Mais si on se fie à l'histoire de Harry Potter, ben peut-être que ça vaudra 150, 200, 300 000 $.
On croise les doigts.
Merci beaucoup, Sonia Alain.
Mais merci à vous.
Merci. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui parce qu'il fait beau. Puis c'est le fun de taquiner les invités quand ça se prête à ça. Alors, ben oui, alors on a beaucoup parlé de littérature. Puis là, on va aller parler de chant après la pause et on va parler aussi de théâtre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ben, c'est une journée ensoleillée avec un ennuagement en mi-journée et peut-être des averses et des orages en fin de journée ou en soirée. On est à un maximum de 25, un index de 28 dans le sud du Québec. C'est plus frais ailleurs, que ce soit au Québec, en Ontario, dans les provinces d'Atlantique et même dans l'ouest du pays. On reste quand même dans des températures acceptables, bien que l'indice UV est élevé à très élevé. Donc, mettez de la crème pour vous protéger des coups de soleil. Et bon, on sait que ça peut causer le cancer de la peau, alors on fait attention à ça. Et puis, selon ce que j'ai vu, semblerait, si la tendance se maintient, comme dirait un certain Bernard de Rome, va faire beau pour le 23 au soir à Québec et le 24 à Montréal. Donc, on se croise les doigts. À tout de suite.
Et le dimanche à midi.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Les boys ont réussi à me convaincre d'aller dans un bar. J'avais pas le goût d'être là, il était même pas minuit et quart. La tête ailleurs, mon corps est allé de mes déboires. J'vis ma vie sur la scène, pourtant j'me vois pas comme une star. Y'a Zach à côté de moi qui me dit de regarder à ma droite. Et comme la fille est tellement belle, faut que t'ailles la voir avant qu'elle parte. Et son parfum Chanel est partout dans la pièce. Elle s'appelle Michael. Elle m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu parles bientôt, mais je t'ai vu près de moi. T'es là sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu parles bientôt, mais je t'ai vu près de moi. T'es là sur les miennes encore une dernière fois. Money du vibe qu'on est caché d'entendre le son de ta voix. Depuis que t'es parti, j'suis perdu, puis c'est pas évident. Mais j'perds ma tête lentement, du artisan dans le vent. J'passe du temps avec les boys, mais j'suis pas le même sans toi. J'écris mes lyrics dans un cahier qui sent de passer le temps. Puis j'prends la guide pour mettre des pannes quand j'te veux dans mes bras. Mais son parfum Chanel était partout dans la pièce. Oh, Michael. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu parles bientôt, mais je t'ai vu près de moi. T'es là sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis je sais que tu parles bientôt, mais je t'ai vu près de moi. T'es là sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Je t'ai vu près de moi. T'es là sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la.
La chanson Dernière fois de Stats.
Eh bien, du 3 au 5 juillet 2026. Ok, je vais dire, on vient de se faire prendre. Est-ce que je pourrais dire le pantalon à terre, parce qu'on jasait pendant que la chanson terminait, puis on s'est fait prendre un peu par surprise. Alors, je vais reprendre ça. Du 3 au 5 juillet 2026, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu vivrera au rythme de la 22e édition d'un événement incontournable qui s'appelle le Festival de chant de Vielle. Pour en parler, nous recevons Nicolas Boulris, que vous avez entendu rigoler parce qu'il était aussi coupable que moi de jaser avant d'aller en onde. Bonjour, bienvenue à l'émission, Nicolas.
Bonjour, quel plaisir d'être avec vous ici ce matin.
Ah, ben ça fait du bien. Je pense que c'est une journée où on est en forme, on est de bonne humeur aujourd'hui.
Ben oui,
aujourd'hui.
Il fait beau.
Ah, ça fait du bien.
Festival s'en vient.
Ben voilà, c'est quoi ça, des chants de vielle?
Ben, la vielle à roue, c'est mon instrument de prédilection. C'est un instrument très, très ancien.
Oui.
C'est une machine à voyager dans le temps. C'est à 1000 ans, mais on connaît pas ça.
Ben non.
C'est une espèce de témoin discret de plein d'affaires. Et c'est un instrument qui fait partie des premiers instruments que les colons français, que les Français ont apporté ici. Il y a eu quelques preuves du passage de cet instrument. Mais moi, en tout cas, je m'accroche à ça. Je trouve ça intéressant. C'est comme une espèce de machine du Moyen-Âge qu'on connaît peu et qui résonne à la fois dans la musique traditionnelle, la musique baroque, la musique ancienne, la musique d'aujourd'hui aussi, parce que c'est un instrument qui, même si on le voit pas, est très présent dans les jeux vidéo, les trames sonores de films. En tout cas, machine incroyable. Puis il y a 22 ans et plus, on s'était dit, il faudrait faire une place à ça. Et Chant de Vielle est arrivé pour faire une espèce de... une place aux musiques traditionnelles, peut-être vues autrement. Les musiques françaises, les musiques écossaises, irlandaises, les musiques d'ici, les musiques autochtones, les musiques du monde, finalement. Toutes les racines qui font ce territoire du Québec.
Juste pour être certain de bien comprendre, c'était un instrument de musique, on jouait ça?
Oui, je ne l'ai pas précisé.
Ouais.
C'est un instrument à cordes, frotté. La roue, c'est l'archet, finalement.
C'est ça.
C'est une roue archet. Au lieu d'avoir les doigts sur les cordes comme un violon ou une guitare, c'est un clavier. Donc, c'est un des premiers, si ce n'est pas le premier instrument à clavier de notre histoire.
Wow! Alors, on parle d'une édition époustouflante cette année, hein, qui repousse les frontières.
Ouais.
Comment on orchestre ça, là, de se promener entre le Québec, l'Acadie, l'Europe, dans des traditions même états-uniennes?
Ouais.
Comment est-ce qu'on
fait
ça?
C'est un jeu d'équilibriste assez trippant que Geneviève Nadeau, notre directrice artistique, fait de main de maître depuis 22 ans. L'idée, c'est de parler de ce que nous, on aime, de faire vibrer les gens parce que nous, on découvre. Parce que Geneviève et moi, on fait partie d'un autre bateau qui s'appelle Le Vent du Nord, qui est mon groupe de musique. Geneviève est gérante de ce groupe-là. Moi, je suis musicien. Puis c'est aussi ma femme, on va se le dire. Et puis...
On va la saluer. Bonjour.
On la salue. Elle va nous écouter. écouter. Et puis, donc, quand on voyage avec le vent du Nord, on rencontre des gens, des musiques extraordinaires. On essaie de ramener ça dans ce cœur villageois de Saint-Antoine. Et comme je disais, c'est un jeu d'équilibriste à la fois pour faire découvrir, apporter aussi des choses qu'on sait que les gens vont apprécier. C'est un festival pour toute la famille. Hein. Il y a des activités pour les enfants, il y a des stages pour les musiciens professionnels, mmh. il y a de la danse, il y a du chant. On fait des affaires flyées comme « Avez-vous déjà chanté dans un canot? » Pendant des centaines d'années, on a chanté sur nos rivières puis nos fleuves pour se promener puis voyager. L'Amérique française s'est faite par les rabascas puis les canots avec les Autochtones. Donc, on prend un rabasca, en fait un bateau dragon pour dire la vérité, on s'en va sur la rivière Richelieu, on prend un chanteur, une chanteuse, puis on vous fait avironner comme on a fait pendant des centaines d'années.
Ah ouais.
C'est quand même assez unique. Il y a une grande scène, des milliers de personnes chaque année. La grande scène sur le bord de la rivière Richelieu. On a des concerts dans l'église, dans la maison de la culture. C'est une espèce de... Il y a aussi le fait qu'on est dans un village, c'est assez différent comme impression. On a souvent tendance à voir les festivals de cette envergure-là dans les villes.
Ouais.
Et là, on est dans un camp villageois. Les gens veulent rester, donc on a inventé un camping dans le village. Dans le milieu de la rue, il y a des campings, il y a des Westphalia, il y a des VR, c'est complètement fou. On a même cette année un glamping, comment on appelle ça?
Un glamping, ça, c'est le genre de camping que je fais, ça.
Ouais. Oui, bon, ben, tu réserves directement. La tente est là, le lit est là, puis en tout cas, c'est complètement fou.
C'est une couche en dessous de ce que j'aime. Moi, j'avais le glamping dans un hôtel 3 étoiles.
Ah non, nous autres, ça finit vraiment par ping. Là.
On est vraiment. Je dois dire, je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui, si c'est la pleine lune ou pas, mais on rigole aujourd'hui à l'émission. Il y a quand même, je vais quand même parler de choses importantes. Il y a 85 artistes cette année.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler? Je sais qu'il y a Edith Butler qui va être là, un monument.
Un monument. Edith Butler, elle est incroyable. On l'a vu quelques fois récemment dans les dernières années. Puis elle a passé 80, Edith, je pense qu'on peut le dire, vous le savez. C'est une femme avec une énergie, une générosité extraordinaire. Donc, elle nous fait le bonheur de sa présence le vendredi. Je vous dis ça rapidement.
Ah oui, allons-y.
Le vendredi soir, il y a des États-Unis, Laura Cortesi avec Bert Rimbeek, mm-hmm. qui est un Belge flamand, un duo violon, voix, accordéon, de toute beauté. Vraiment beaucoup de finesse. Edith Butler, on vient d'en parler, qui suit. Le Vent du Nord, mon groupe.
Ouais.
On va clore cette soirée du vendredi soir sur la scène qu'on appelle Jean-Paul Guimond. Je vous parlerai de lui si on a le temps. Alors, ensuite, il y a de la danse, parce que ça, c'est un volet très important dans le festival. Les gens veulent danser. Les jeunes veulent danser. Et ça, c'est très fascinant. Les gens sont au rendez-vous. On a un bal français, donc avec un groupe de France. Automne. Il y a Roland Brou, un chanteur breton qui arrive incessamment sous peu d'ailleurs, qui vient faire aussi de la musique à danser, mais au chant. La Fosse, un groupe du Bas-Saint-Laurent qui vient. Et puis en même temps, il y a une veillée de chansons. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être vécu dans votre vie, de vous ramasser dans un lieu où les gens chantent, puis chacun notre tour, on peut...
Oui.
Bon, ça se faisait peut-être plus souvent autrefois dans les cuisines. C'est encore vivant au Québec. Et là, on en fait une veillée de chansons. Mais des fois, au lieu d'être 8 dans une chambre, on est plus 120 dans une petite salle. Et vous êtes invité à venir chanter une chanson que vous connaissez par cœur ou pas. Il y a David Berthiaume, qui est un grand chanteur trad, qui va être là pour animer la soirée. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Le lendemain, il y a Nadine et Samy. Samy, c'est un gars... Ben, Nadine et Samy font partie d'un groupe qui s'appelle Foghorn String Band aux États-Unis. C'est une légende de musique old time. Nadine et Samy sont tombés en amour. Samy, c'est un Américain. Nadine, c'est une fille de la Gaspésie. Puis, ils habitent là-bas. Ils font aussi en duo, donc, ce couple-là de la musique old time. Faut pas manquer ça. Samedi, ça commence la soirée. Ensuite, Automne, le groupe français de Gascogne qui viennent faire de la musique aussi. Vichten de l'Acadie.
Oui, j'ai gagné.
Vichten, super groupe, vraiment incroyable, oui. Avec une nouvelle membre. Ça n'a pas manqué. Ensuite, il y a de la danse, mais québécoise ce soir-là, avec un groupe qui s'appelle Grand Char Allégorique. Je trouve que... Je sais pas quoi dire par rapport à ce titre-là, mais je le trouve inspirant.
Oui.
Grand Char, je sais pas si ça va être quoi. Est-ce qu'ils vont bouger avec des... je sais pas. J'ai hâte. Venez, c'est Jean-François Berthiaume.
Pour nous faire un défilé
va
de danse,
ça va être, je sais pas. Mais à minuit, on a fait quelque chose cette année. Dans l'église, on met un band de jeunes parulines qui viennent faire un show à minuit.
Ah,
pour
ouais.
Les plus nocturnes d'entre nous. Dimanche, il y a une soirée, une journée un peu différente. Ça commence très tôt le matin, bien, 11 h. On a l'aubad dans l'église, tous les professeurs.
Il va avoir la messe à 10 h, puis ça,
l'aubad. Oui, la messe est remise à plus tard. Il y a des stagiaires, comme je disais au début du festival, qui viennent apprendre avec des grands maîtres, c'est ça. Et puis, ils viennent présenter des chansons. Donc, l'aubad commence. Après ça, il y a un vrai défilé. Pas le grand chœur allégorique, mais le petit chœur allégorique de Chanteviel. Dans le village, les enfants auront préparé des trucs, des marionnettes. Ça aussi, c'est flyé. On bloque la rue, puis on chante en jouant de la musique. Et la soirée va se terminer avec la belle équipe, un groupe de France et de Québec. Galant, tu perds ton temps, un quintet de chant à cappella incroyable, dont une des filles habite le village, Millon, la salue. Donc, Galant, tu perds ton temps, qui viennent juste de lancer un disque, c'est de toute beauté. Puis on finit avec Los Vega,
ouais.
Un groupe du Mexique. C'est la première fois qu'en 22 ans, on a un groupe mexicain qui vient chanter et jouer un style de musique qui s'appelle le son jaroco. C'est unique. On connaît très peu cette musique mexicaine. C'est pas les sombreros, là. On n'est pas sur cette... C'est plus proche des musiques cubaines, par exemple. Ah, c'est très beau. À découvrir.
À découvrir. On a une petite minute, là. On va parler de cette personne, Jean-Paul
Guimond?
Oui.
OK. C'est un festival autour de la mémoire. C'est un festival autour de la tradition orale, celle du Québec et celle de toutes nos racines. J'en parlais tantôt. Jean-Paul Guimond est décédé récemment, l'an passé. Jean-Paul Guimond avait 92 ans. Et puis, c'est un monument qu'on connaît peu. Moi, j'ai d'enregistrer de lui à peu près 950 chansons qu'il connaissait par cœur. La force, la puissance de cette mémoire-là, et c'était un homme absolument généreux qui a donné des chansons à des groupes comme La Bottine Souriante, Les Charbonniers de l'Enfer, Yves Lambert, Le Vent du Nord. C'est un gars qui a collaboré avec tout le monde. Toute sa vie a été généreux. Il a offert ses chansons, il les a partagées. C'est ça, la musique traditionnelle, ça nous appartient. Ça appartient à tout le monde. C'est quelque chose qui s'additionne. On a une richesse commune incroyable qui est toujours vivante. Et même si lui n'est plus parmi nous, sa mémoire, ses chansons sont toujours avec nous. Et la scène principale du festival porte son nom.
C'est vraiment beau. C'est un bel hommage. Alors, du 3 au 5 juillet 2026, c'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Si on veut plus d'informations sur le festival Chanteviel, on va chercher ça en ligne.
Chanteviel.com. Vous allez trouver le numéro de téléphone aussi. Si vous appelez au bureau, ça risque d'être mon gars qui répond.
Alors, juste rappeler aux gens, ça s'écrit V-I-E-L-L-E-S, hein, parce
ouais.
que c'est pas vieille, c'est vielle.
Exactement.
Merci beaucoup, beaucoup, Nicolas Boulris, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Plaisir.
étoiles sont claires à soir.
Dans le bois, une chanson d'Edith Butler.
Oui, bon, petite seconde, j'ai pris la mauvaise pile d'informations ici. Voilà, j'y arrive. L'humoriste Martin Matt lance une collection officielle de chandails inspirés de sa série Vitrerie Royale diffusée sur Prime Video. C'est dans petitpetitgamin.com du 20 juin. Conçu en collaboration avec la marque québécoise C'est beau, ses vêtements servent à financer sa fondation éponyme. Pour chaque chandail vendu, un montant de 12 $ sera versé à la Fondation Martin Matt afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap physique. Les profits amassés permettront notamment de soutenir les familles touchées et de financer le réseau des maisons Martin Matt qui propose des milieux de vie adaptés. Dans le Journal de Montréal du 19 juin, des questionnaires médicaux imposés aux candidats et candidates à des postes de cadre au sein de Santé Québec suscitent la controverse. L'Association des personnels d'encadrement des établissements de santé et de services sociaux dénonce ces formulaires jugés très intrusifs. Ces documents exigent des détails sur la prise de médication actuelle ou passée liée à la dépression, à l'anxiété ou aux troubles alimentaires. L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées soutient que ces pratiques n'ont plus leur place en contexte de pré-embauche. De son côté, Santé Québec défend la démarche en affirmant qu'elle survient uniquement après une promesse d'embauche et qu'elle permet une gestion rigoureuse des risques financiers liés aux absences pour invalidité. Tout de suite aller à notre prochaine entrevue, un jalon exceptionnel de l'histoire culturelle québécoise, 50e anniversaire du théâtre de la Dame de Cœur, théâtre qui est né à Upton en 1976. Pour parler de cette incroyable trajectoire, nous recevons le directeur général et artistique ainsi que cofondateur de la compagnie, Richard Blackburn. En 1976, M. Blackburn, votre équipe, bonjour, bienvenue à l'émission.
Hey, bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Alors, en 76, votre équipe et vous quittiez Montréal pour vous installer sur un site abandonné en région. Alors, ça me permet l'expression, comment expliquer que cette folie artistique a réussi à traverser 5 décennies?
Ben, disons que, écoutez, faut quand même mettre le contexte. Il y a 50 ans, au Québec, on connaissait pas encore l'effervescence culturelle d'aujourd'hui.
Ouais.
Alors évidemment, tu es à Montréal, t'as fini les études en théâtre, à l'université, et tu regardes ce qui se passe à Montréal, puis moi je suis un gars de région, je suis natif du Saguenay, puis alors même à Montréal, tu as le goût d'aller travailler en région, tout simplement, tu te dis, bon, regarde, pourquoi rester à Montréal, aller à la rencontre d'un nouveau public, vous trouvez une nouvelle façon de pratiquer notre métier, alors tout ça nous habitait. pulsaire dans nous. Puis, ben voilà, alors à un moment donné, ben, tu cherches, tu vois, où est-ce qu'on pourrait bien s'installer, tu découvres que ben, il y a un site abandonné, là où nous sommes présentement, qui était vraiment, vraiment abandonné. Et on y était, on nous a laissé là, squatteur, pendant 10 ans. Alors, les 10 premières années nous ont permis de, ben, vraiment de remettre des vitres là où il n'y en avait plus, de remettre de l'eau, d'exister, de commencer à travailler tout de suite, à commencer à développer cette vision-là de notre travail. Puis au bout de 10 ans, ben là, le ministère de la Culture a dit, ben, on pense que vous avez fait la démonstration que c'est intéressant ce que vous faites là, et on va vous soutenir et on va régler tout ça. Alors bon, voilà, c'était comme ça pour les 10 premières années.
Mais on va quand même parler, parce que je parlais de folie artistique, puis dans le bon sens du terme, parce que vous avez la signature de ce que vous présentez à Notre-Dame-du-Cœur, c'est Notre-Dame-du-Cœur, pardon, c'est l'usage de marionnettes géantes.
Oui, oui. Alors, en se laissant influencer par l'environnement, notre, si vous voulez, le Big Bang artistique de la compagnie, ça a été un premier spectacle de marionnettes géantes sur l'eau, au croisé des deux rivières qui passent sur notre site. Et à ce moment-là, c'était comme une espèce d'instinct de dire, ah ben gardons ça, pourquoi on ne serait pas dehors, pourquoi? Et là, on s'est mis à créer des marionnettes qui flottaient sur l'eau avec un système de kayak catamaran, une folie, avec 60 bénévoles. Et là, vraiment, on s'est éclaté et on a réalisé que ce travail-là avec l'allégorie, la métaphore et les marionnettes géantes, c'était vraiment quelque chose de fascinant et d'intéressant. Et là, on s'est dit, ben on continue dans cette voie-là.
Il faut quand même le dire là, que de nos jours, chaque marionnette, ça prend quoi? 3 ans de développement avant de prendre vie?
Oui.
Il faut vraiment savoir ce qu'on fait, là.
Oui. Oui, oui, pour créer, évidemment. Alors, au départ, bien sûr, on peut imaginer qu'on ne savait pas comment faire, évidemment. Il y a quasiment 48 ans là, de ça. On ne savait pas comment... Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de YouTube pour nous dire, ben voici comment créer une marionnette géante, suivez-nous. Alors ça n'existait pas. Donc, c'est exploration, recherche, essai, erreur. Et puis, évidemment, avec les décennies, ben cette expertise-là s'est développée, s'est peaufinée, beaucoup de gens talentueux, aussi passionnés que nous, ont joint les équipes. Et là, on a vraiment développé cette façon-là de travailler. Ce qui fait qu'en 2026, ben, comme vous pouvez imaginer, ben, les marionnettes sont au niveau des mécanismes de leur utilisation, multimédia, son, etc., c'est rendu très sophistiqué. On va dire que c'est normal. 50 ans de persévérance ne pouvaient pas faire autrement que nous amener à quelque chose d'assez exceptionnel.
Alors, les spectacles que vous présentez, même si c'est des marionnettes, là, c'est pas des spectacles juste pour les enfants, c'est vraiment intergénérationnel. Comment on arrive à faire un spectacle intergénérationnel avec des marionnettes?
Il faut que l'équipe de scénarisation, l'équipe qui crée l'histoire avec moi comme directeur artistique, eh bien, on est nous-mêmes intergénérationnels. Alors, ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui travaillent avec moi au début pour créer l'histoire, et ces gens-là ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors, on est vraiment nous-mêmes intergénérationnels. Alors, à ce moment-là, on essaie de créer un univers qui va nous rejoindre dans un premier temps. Et à ce moment-là, ben, il y a des chances que ça puisse rejoindre notre public intergénérationnel de la même façon. Alors, quand on crée l'histoire, ben, on va pas simplifier l'histoire pour être intergénérationnel. On va créer une histoire vraiment stratifiée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des composantes qui vont fasciner les enfants, fasciner les adultes, fasciner les grands-parents. Et à ce moment-là, ben, c'est pour ça que ce travail-là, pour rejoindre et faire passer une soirée d'exception au public, ben, il faut que tu travailles longtemps. Donc, le 3 ans vient justement montrer que pour atteindre un objectif comme ça, ben, il faut que tu besognes, puis il faut que tu travailles bien. Voilà. Bien cherché.
On va rapidement parler du spectacle immersif que vous présentez cette année, qui s'appelle La folle épopée de M. Paul. Alors, c'est une histoire, je pense qu'on parle d'un passeur de récits, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. La transmission. Évidemment, dans le cadre du 50e, pour nous, c'était une thématique auquel on était très sensible, et on trouvait que c'était vraiment la bonne thématique à proposer au public. Alors, ça nous a permis de créer une histoire vraiment extrêmement fantaisiste, fabuleuse, mais émotivement, prenante. Et puis, en plus de ça, ben, évidemment, ça nous fait voyager énormément. Vous savez, quand vous avez un livreur de colis à la retraite qui décide d'inventer des histoires de livraison incroyable, fabuleuse, extravagante, tout ça pour amuser les gens de son village, eh bien, ça fait que notre livreur à la retraite vraiment voyage dans des univers incroyables. Tout ça sous le regard d'une petite fille de 10 ans qui, elle, comprend les enjeux, comprend comment tout ça résonne et elle va vraiment, elle aussi, prendre la relève, avoir ses initiatives. Elle fait partie de la solution de certaines histoires et vraiment, cette relation-là de transmission entre M. Paul âgé et cette jeune fille-là, eh bien, vraiment, c'est tout se passe là.
On va devoir s'arrêter ici. Il nous reste presque plus de temps, mais je vais quand même souligner que certaines de vos productions se sont présentées dans le monde. Et un petit mot rapidement, on vient de passer le cap des 50 ans. On prévoit quoi pour l'avenir?
Pour l'avenir, ben c'est évidemment, c'est que l'utopie originelle, ce qui nous importe, c'est que cette utopie-là continue encore à vivre, à vraiment à continuer à pulser à travers nos équipes, parce que à travers nos grandes équipes talentueuses.
Ben oui.
Alors, c'est ce travail-là qu'on veut voir bouger, évoluer, avancer, continuer à chercher, à explorer, et pour vraiment faire passer vraiment des moments uniques, immersifs à notre public.
Ben, on vous souhaite un autre joyeux 50 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Richard Blackburn, qui est directeur général et artistique ainsi que cofondateur de la compagnie du théâtre Notre-Dame de Cœur à Upton. Merci beaucoup.
De la Dame de Cœur.
De la Dame de Cœur.
De la Dame de Cœur.
De la Dame de Cœur. Voilà. Ben, vous êtes désolé.
Oui.
Merci.
OK. Oui, bonjour.
Bonjour. Bon, l'émission se termine rapidement. Merci beaucoup à Mathieu Tessier à la régie. Merci aussi à Hélène Denis qui va reprendre le micro demain, qui m'a aidé à la recherche aujourd'hui. Et moi, ben, je vous revois la semaine prochaine, mais pas lundi. Je vais revoir à partir du 30 juin pour une semaine. À la prochaine!